Auditeurs et auditrices de Patara, bonjour et bienvenue dans votre émission débat de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous débattons de ce qui reste de l'autorité de l'État et de l'intégrité territoriale en Centrafrique. L'espoir suscité par l'accord de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés se transforme en illusion. Les groupes armés sont d'autant plus renforcés par l'accord de paix et sautent sur des occasions pour violer ostentoirement les dispositions du dit accord sous le silence du gouvernement et des garants et facilitateurs de l'accord. Alors que le gouvernement justifie son inaction par l'embargo qui pèse sur les armes à destination du pays, les facilitateurs et garants de l'accord, eux, notent des avancées dans les mesures qui frappent la République centrafricaine depuis 2013. Pour défier les autorités et la communauté internationale qui misent sur l'accord de paix comme la seule alternative, Ali Darassa, annexe Bambouti, met en place son administration en nommant un préfet, sous-préfet et maire. Il n'en est pas pour autant une maison carcérale et des barrières pour couronner son autorité. Le gouvernement et la communauté internationale sont restés passifs devant la mise en œuvre du plan de l'UPC dont le peuple ignore les tenants, encore moins les aboutissants. Deux administrations donc, dans le Haut-Bomou, l'une assurée par les loyalistes très mal équipés, l'autre par les forces négatives, quoique représentées dans le gouvernement, mais mieux équipées pour narguer le peuple. Après avoir tout donné aux groupes armés, l'occupation et l'installation d'une administration parallèle dans le Haut-Bomou par l'UPC remet sur la table la question de la partition. Question qui, du gouvernement et de la communauté internationale, est comptable de la détérioration du tissu sécuritaire? Pourquoi les groupes armés poursuivent la conquête de l'espace en violation de l'accord sans la moindre réaction de Bangui? Le silence du gouvernement est stratégique ou complice? Que reste-t-il encore du serment du chef de l'État Faustin Archange Touadéra? À quand le désarmement des forces négatives? Alors que les autorités et la communauté internationale misent sur les élections, fera-t-on des élections dans ces conditions-ci? Autant de questions que nous cherchons des réponses ensemble dans votre émission Patara. Pour en débattre, nous avons autour du micro M. Fidèle Ngwandika, ministre conseiller à la présidence, allié du président de la République Faustin Archange Touadéra. M. Fidèle Ngwandika, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi M. André Nake Dorogo, ancien ministre député de Berbérati 4 et vice-président de l'URCA, parti d'opposition. M. Nake Dorogo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour aussi aux auditeurs. Nous avons aussi M. Christian Guélébem, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti KNK. M. Christian Guélébem, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi M. Joseph Binoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. M. Binoumi, bonjour.
Bonjour.
La police du débat est assurée par moi, Jean-Fernand Poena. Je bénéficie de l'appui technique de Herman Nambona et de Anne Anix Pounemati. Patara, c'est tout de suite après cette transition.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
D'entrée de jeu de cette émission, nous voulons vous poser cette question, Monsieur Fidel Ngwandika, vous qui représentez la majorité présidentielle dans ce débat. Quelle analyse faites-vous de l'annexion de Bambouti par l'UPC de Ali Darassa après la signature de l'accord de paix?
Merci. Je vois que la radio Ndekeluka continue toujours son invective envers le gouvernement. Je pense que ça, c'est une émission à charge. Donc, il serait nécessaire pour vous de commencer à poser la question aux membres de l'opposition démocratique. Et moi qui suis venu ici pour répondre aux invectives de la radio Ndekeluka, je pourrais apporter des éclaircissements. Mais dans votre liminaire, vous avez utilisé des grands mots, pour ne pas dire des gros mots. Vous parlez de partition, vous parlez d'annexion, vous parlez d'administration parallèle. Ce sont des termes très graves. Pendant que nous prenons la réconciliation nationale, pendant que le président se bat sur tous les fronts pour ramener la paix, la concorde et la cohésion nationale dans le pays, vous vous amusez, surtout avec une certaine opposition dite démocratique, de se réjouir du fait que quand un des signataires des accords du 6 février viole les termes de ces accords-là, alors vous vous réjouissez. Je ne sais pas pourquoi vous vous réjouissez du fait que parmi les 14, quand un seulement ou deux se dévient de la trajectoire, sort de la République, pour vous, c'est un objet de fierté, un objet de propagande qui va alimenter des débats populiste et démagogique.
Monsieur le ministre, en écoutant votre développement, nous avons à l'idée de vous poser cette question. Est-ce que le fait pour Ali Darassa de nommer préfet, sous-préfet et maire, n'est-ce pas là une volonté de mettre une administration parallèle à l'autorité de l'État?
On y reviendra tout en longueur dans cette émission. Je vous remercie. Continuez à poser votre question et je vous répondrai après l'opposition démocratique et M. Bindoumi qui représente les droits humains ici. Merci.
Ok, M. André Nake-Dorogo, que vous inspire la montée de Ali Darassa qui quitte sa superficie pour aller jusqu'à Bambouti en violation des dispositions de l'accord?
Je vous remercie. Je voudrais d'emblée dire ici que nous sommes venus dire la vérité au peuple centrafricain. Il s'agit de dire toutes les vérités. Parce qu'à titre de rappel, je voudrais rafraîchir la mémoire de monsieur le ministre conseiller.
Spécial.
Conseiller spécial, comme vous le voulez, que entre les deux tours, le président Touadéra avait affirmé que s'il est élu, il réglerait les problèmes sécuritaires en 3 mois. De même, dans le serment qu'il a prêté le 30 mars 2016, il a pris des engagements de garantir l'intégrité du territoire, de protéger les Centrafricains, de consolider l'unité nationale. Qu'en est-il aujourd'hui? Je rappelle aussi que le 4 octobre dernier, dans son discours lors du lancement des travaux de la fibre optique à Berberati, j'y étais, j'ai pris des notes et je cite ce qu'il a dit. « Je ne suis pas élu pour faire la guerre. » Alors, pourquoi diantre a-t-il demandé à Sotchi des armes lourdes? Est-ce pour équiper une armée de parade? À moins qu'il soit un guerrier pacifique. Ça, cela n'existe pas. Même dans l'allégorie, ça n'existe pas. Donc, je voudrais qu'ici, qu'on dise toute la vérité. Aujourd'hui, après de 4 ans d'exercice de pouvoir, tout le pays est sous coupe réglée par les groupes armés.
Le pays.
Et tout le pays, je dis, hein. À part, même Bangui, à 5 km du palais de la Renaissance, est administré par des groupes armés. Alors je voudrais que le régime sorte de sa langue de bois parce que c'est cousu de fil blanc. On ne peut pas continuer de nier l'évidence. À moins de nous dire que l'incapacité est là et je leur demande un peu plus de courage pour que le peuple informé ainsi prenne toutes ses responsabilités. Et ça, vous devrez nous le dire au lieu de vous cacher derrière votre petit doigt.
Monsieur Christian Nguenibim, vous avez suivi le développement du ministre Ngwandika. Qu'est-ce que cela vous inspire lorsque Ali Darassa quitte son périmètre initial pour aller jusqu'à Obo, l'endroit qu'il n'a jamais occupé?
Vous savez, moi je suis un peu intrigué. Hein? Intrigué quand j'entends les développements que nous faisons ici autour de cette table. Je répondrai à votre question. Mais comme vous me l'avez dit au préalable, j'ai entendu le développement du ministre conseiller spécial. Quand on dit que un ou deux signataires sortent de la République, j'ai dit c'est pas un ou deux. Quand Mankeur Ndiaye va devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, quand les rapports des experts parlent de 70 violations en moyenne par semaine de l'accord, c'est pas un ou deux. On a le PRNC, le FPRC, le MLCJ, c'est déjà trois, qui se battent à Birao, Amdafok et autres. C'est pas un ou deux. On a l'UPC de Ali Darassa qui fait des débordements dans le Ombomou. C'est pas un ou deux. On a les 3R de Sidiki qui continuent de briller par la négative. C'est pas un ou deux. Non, ce sont les principaux signataires qui foulent au pied l'accord qu'ils ont signé après en avoir bénéficié des effets positifs induits par leur signature. C'est-à-dire, ils ont leurs représentants dans le gouvernement, dans l'administration de la présidence de la République, de la primature, certains à l'Assemblée nationale. Nous avons les unités spéciales mixtes qui sont mises en place, tout ça. Mais c'est les effets bénéfiques pour eux. Toutes les obligations auxquelles ils s'étaient engagés, bon, mais pour la plupart aujourd'hui, ne sont pas tenus, ces engagements. Donc, quand ils disent un ou deux qui sortent de la République, qui dévient, non. Mettons les choses à leur place. Nous avons les principaux signataires qui foulent au pied l'accord. Ça, c'est la première chose que nous devons relever. Maintenant, administration parallèle, c'est des mots très graves. Mais c'est la vérité. On ne peut pas nommer un sous-préfet et dire que ce n'est pas une administration. Le sous-préfet de Bambouti, lorsque il était au téléphone avec vos confrères du RGDH, j'étais dans les locaux, je faisais une interview. Je l'ai suivi qu'il était en fuite.
à Obo. Donc, c'est qu'il y a une administration parallèle qui a été mise en place. C'est un fait. Ce ne sont pas des allégations. C'est prouvé. Et ils ne se sont pas limités à ça. Il y a eu préfet, sous-préfet, maire. Maintenant, on nous dit aussi qu'un certain général Bouba de l'UPC aurait nommé un lieutenant-colonel Ousmane comme CB à Zemio. Ça se poursuit. Alors, nous dire que oui, c'est des affirmations très graves, mais elles sont réelles. Aujourd'hui, nous aurions voulu entendre quelles sont les réponses préconisées, quelles sont les actions qui vont être menées de manière à, un, contraindre les signataires à respecter leur signature, même si c'est une vue de l'esprit, hein, mais au moins, il faut qu'on se le dise. Et de deux, que nous restaurions l'autorité de l'État. C'est de ça que nous devrions parler, que de nous dire... Oui, c'est une émission à charge. Non, on n'est pas dans un procès. Aujourd'hui, il y a des faits. Les Centrafricains vivent ou bien continuent de vivre un drame. Aujourd'hui, nous voudrions savoir, puisque nous sommes dans l'opposition, nous n'avons pas les leviers du pouvoir entre les mains, mais nous voudrions savoir qu'est-ce que ceux qui ont ces leviers-là ont prévu de faire. C'est ça qui nous intéresse.
Ok, les Centrafricains vivent un drame. Monsieur Joseph Bindoumi, quelques mois après la signature de l'accord, les violations de droits de l'homme continuent d'être enregistrées et Menkeur Ndiaye avait enregistré et documenté plusieurs cas de violations de droits de l'homme. Vous qui présidez la Ligue Centrafricaine des droits de l'homme, en quoi cela aujourd'hui justifie votre préoccupation dès lors que Ali Daras va jusqu'à Bambouti?
Je voudrais m'adresser au ministre conseiller spécial que nous ne sommes pas venus pour un procès. Moi, si c'était ça, je ne serais pas venu. On n'est pas venu sur un procès, on est venu discuter d'une cause nationale. Pour répondre précisément à votre question, je voudrais préciser un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est que la liberté, ce qu'on appelle liberté, n'a pas de moitié. On ne peut pas dire « oui, il est partiellement libre » ou « il est libre ». Ça n'existe pas. Ou on est libre, ou on n'est pas libre. La paix n'a pas de moitié. Ou bien on a la paix ou on ne l'a pas. Malheureusement, pour notre cas, nous n'avons pas la paix. L'intégrité du territoire suppose qu'on contrôle l'ensemble du territoire et que lorsque sur le territoire national, il y a un mètre carré qui n'est pas contrôlé par la souveraineté de l'État, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle de son pays. Donc aujourd'hui, vous me posez la question de violation des droits de l'homme. Je ne veux pas faire le récit que nous faisons tous les jours. Je citerai les hommes de Sidiki qui, avant-hier encore, ont attaqué et tué. Malheureusement, dans la radio nationale, on n'en parle pas. Vous devez noter que on parle de la nomination des préfets, des sous-préfets. Mais avant la nomination des préfets, sous-préfets et maires, vous allez voir que Ali Daras a continué d'étaler les barrières qui, en fait, étaient considérées comme interdites par l'accord politique, a continué de racketter, choses interdites par l'accord politique, s'est déplacé en dehors des zones qu'il était. Or, l'accord politique dit que, dès la signature de l'accord, les forces gardent leur position et que 90 jours après, la notion de groupe armé devrait disparaître. Malheureusement, non seulement les groupes armés n'ont pas disparu, non seulement ils violent, j'entends les barrières, j'entends les déplacements, mais selon les documents que j'ai sous la main, Ali Daras est allé dans le Ombomou et a nommé un préfet, un sous-préfet à Bambouti et un maire. Les noms, je vais les citer tout à l'heure quand nous serons à l'intérieur du débat. Mais nous disons pour notre part que le gouvernement ne devait pas se réjouir un seul instant, de savoir qu'un maître du territoire de la République centrafricaine est occupé par des forces qui agissent sans l'autorisation de la souveraineté nationale qui est représentée par le chef de l'État et son gouvernement. Ça, on ne devait pas l'accepter. La deuxième chose qu'on ne devait pas accepter, c'est qu'on a mis dans le langage officiel le caractère minimum de la sécurité des citoyens. Notamment, nous avons entendu au niveau des organisations de la société civile nous dire, vous voyez, il n'y a pas autant de morts et que la paix est en train de venir petit à petit grâce à l'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cet avis parce que pour nous, il était indiqué que après le 6 février, au moins jusqu'au 6 mai, on ne devrait plus entendre parler de groupes armés, de même qu'on ne devait plus craindre que en se déplaçant d'une localité à une autre, on soit racketté, et puis moins encore, que quelqu'un qui a signé l'accord puisse nommer des préfets et des sous-préfets, ainsi que des maires de communes. Voilà la position de la société civile dans ce débat. Ce n'est pas un procès, sinon je ne participerai pas à ça, mais je voudrais qu'on parle de la chose nationale en des termes clairs. Je vous remercie.
On parle de la chose nationale en des termes clairs. Monsieur Fidel Ngwandika, est-ce que aujourd'hui l'accord de Khartoum n'est-il pas aujourd'hui un marché de dupes entre le gouvernement et les groupes armés?
Non, nullement. Ce n'est pas un marché de dupes. Je viens d'écouter chacun de mes contradicteurs ici. Je puis le dire des contradicteurs. Donc, tout ce qu'ils ont raconté, disons que Ali Daras a annexé le Ombomo, Ali Daras n'a pas annexé le Ombomo. Ali Daras n'a jamais, mais au grand jamais, nommé des préfets, des sous-préfets, des commandants de brigade. Tout ça, c'est du pur mensonge. Vous récoltez ces informations sur Facebook. Moi qui vous parle aujourd'hui, Je suis membre permanent du Conseil de la sécurité de la République centrafricaine et je parle avec des documents à l'appui. Chaque semaine, nous nous réunissons pour analyser la situation générale de la République centrafricaine, en commençant par Bangui, le secteur ouest, le secteur du centre, le secteur est, les événements majeurs, les défis sécuritaires, les solutions possibles. Je ne sais pas où vous trouvez ces informations.
Donc vous remettez en cause les affirmations du préfet qui atteste qu'il y a eu nomination.
Des affirmations gratuites de votre côté et surtout du côté de M. Bindoumi, qui lui-même est le président du comité du suivi des recommandations du forum de Bangui, d'où tire la substance de tous les textes de loi, de toutes les institutions, en commençant par la constitution, la mise en place de l'assemblée, la mise en place de toutes les institutions républicaines, l'accord de Khartoum, l'accord signé en dernier lieu en Centrafrique. Monsieur Bindoumi, en principe, est cet homme qui devrait aller à la radio nationale ou ici même sur Radio Ndekeluka périodiquement pour évaluer les recommandations du forum de Bangui. Puisque l'accord de Khartoum que vous vilipendez aujourd'hui, qui fait son chemin petit à petit, est l'émanation de ce document que M. Bindoumi connaît très bien. Ce sont les résolutions, les recommandations du forum de Bangui, où il y a un pacte républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction de la République centrafricaine, adopté en plénière le 11 mai 2015, et une esquisse, c'est-à-dire l'ancêtre des accords de Khartoum, qui est accord sur les principes de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement DDR et d'intégration dans le corps en uniforme de l'État centrafricain entre le gouvernement de la transition et les groupes armés. Les groupes armés ne doivent pas disparaître par un coup de pouce. Ça ne peut pas disparaître par un coup de pouce. Donc c'est l'accord de Khartoum où M. Nalké a participé représentant l'Assemblée nationale. Outre son parti, il a été là-bas, il a suivi ça de A à Z. Et donc cet accord-là est en train de faire son chemin.
Oui, l'accord.
Le DDR se met en place progressivement. Les USMS, unités mixtes de patrouille, avec quelques éléments de groupes armés et quelques éléments des forces armées nationales centrafricaines, se mettent en place. Ali Daras, c'est vrai, il a été dans le Hombomou, il a donné comme prétexte qu'il veut surveiller le couloir de transhumance. Il a pondu une lettre à la présidente de la République. Le président de la République lui a répondu sèchement, lui a donné des instructions, a mis à contribution la MINUSCA. Il est revenu sur sa décision de prendre ses hommes et contrôler les couloirs de transhumance dans le Hombomou. Elle est récente. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Sa lettre, elle est récente. Il n'a jamais nommé un responsable administratif dans ces lieux là-bas. Sidiki est revenu dans la République. Lundi même, il va y avoir le processus de DDR dans ces contrées là-bas. Et vous dites que Ali Daras a quitté sa zone sous contrôle. Ali Daras n'a pas de zone de contrôle en République.
Il contrôle la Waka.
Non, il contrôle pas la Waka. Le contrôle de la Waka a été fait pendant la transition ou non, pendant la Seleka. Vous oubliez que la Seleka a été au pouvoir. Quand la Seleka a été au pouvoir, Ali Daras avait été nommé par décret présidentiel représentant ou de groupe armé dans la région militaire de la Waka. Et jusqu'à pendant la transition, c'est récemment qu'on a enlevé ce décret. Mais Ali Daras fait partie bel et bien du processus du paix enclenché par le président de la République qui est contenu dans les accords du 6 février. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de suivre petit à petit jusqu'à ce que la paix revienne. Quand vous dites que le président vous a dit en 3 mois, il va ramener la paix.
Il l'a dit.
Non. Monsieur le ministre, non, vous confondez les discours. Politique dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? Même en France, après la Deuxième Guerre mondiale, la paix n'est pas encore revenue totalement.
Pourquoi l'avoir affirmé?
Non,
monsieur le ministre,
vous dites des contre-vérités. Non, quand vous parlez, moi, je ne réagis pas. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, j'ai déjà répondu à monsieur Bindoumi. Je réponds maintenant à monsieur Guenebem. Mais parce que vous êtes 3, je suis 1. Donc, si vous avez 3 minutes, j'ai 3 minutes. Donc, je réponds à monsieur Guenebem. Monsieur Guenebem ignore ce que c'est que l'accord de Khartoum. Il n'en a aucune idée parce que son parti, le KNK, le président Bozizé, a interdit au cadre du KNK de participer au Forum national de Bangui. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la résultante des résolutions du Forum national de Bangui. Et quand vous dites, vous, M. Guenebem et M. Nalké, vous dites que pourquoi le président de la République demande des armes lourdes? On demande l'armement pour la montée en puissance de nos FAKA. On n'arme pas les FAKA pour aller combattre les anti-Balaka, pour ne pas combattre les ex-Seleka. Parce que les anti-Balaka aussi font partie des groupes armés. Il n'y a pas que la Seleka au gouvernement.
Il y a les représentants des anti-Balaka, M. Guénébem, qui sont issus du parti Kanka.
Ça, c'est ce que vous
voilà.
dites.
Il est, ah, il non, y a deux
non,
ministres.
Mais moi, je ne vous permets. Je ne souffre que pas que vous mentiez. C'est un mensonge. Non. Les anti-Balaka ne sont pas issus du Kanka. Non, je n'accepte
vous
pas.
Avez...
Je n'accepte pas et c'est un mensonge.
Voilà.
C'est un mensonge.
Oui, ok, d'accord.
Et retirez-le.
Vous n'acceptez. Non,
retirez-le. Vous le retirez.
Voilà.
Vous le retirez.
Je ne le retire pas.
Les anti-Balaka ont deux chefs connus, Gaïsona et Mokom. Voilà. Et ils ne sont pas Kanka.
L'aéronome, c'est quoi?
Gaïsona, il a son parti, le PCUD, et Mokom n'est pas militant du KNK et ne l'a jamais été.
Ok, mais monsieur le ministre.
Alors retirez ce que vous avez dit.
Monsieur le ministre,
si vous n'êtes pas en mesure de venir défendre la politique de votre chef, ne proférez pas des accusations fallacieuses.
Sur le postulat de votre
développement. Je n'ai pas fini. J'avais encore une minute. Mais vous êtes trois, je suis un. Vous voyez
la... Monsieur le ministre, nous avons envie de vous poser cette question. Quand vous dites que l'accord de paix est en train de faire son chemin, aujourd'hui, vous évaluez à combien de pourcents la réussite ou encore le succès de cet accord 7 mois après sa signature?
Il y a un comité de suivi de ces accords, comme il y a eu aussi un président du comité de suivi des résolutions du forum de Bangui. Il est à ma droite, c'est M. Bindoumi. Il est à même, parce que ces accords le concernent. Ils sont signataires. La société civile a été à Khartoum.
Comme observateur.
À Bangui. Oui, comme observateur. Mais M. Bindoumi, lui-même, non, vous n'avez pas été à Khartoum. Vous avez demandé d'aller à Khartoum, mais un peu trop tard. Je suis bien placé pour le dire aujourd'hui. Donc, c'est à M. Bindoumi de répondre. Il y a un comité de suivi.
Ok, nous avons compris votre réponse.
Je demande que la police des débats puisse s'exécuter.
Écoutez, vous parlez, je ne réagis pas.
Mais, monsieur le ministre, voilà. Nwaduka, nous avons compris. Voilà. Monsieur André Nakedoko, vous avez suivi le développement de monsieur Nwaduka qui affirme que l'accord de paix est en train de faire son chemin et que Ali Daras n'a pas investi Bambouti. Qu'en dites-vous?
Je vous remercie. Mais vous voyez que la posture prise par le ministre conseiller Nwaduka est un déni des faits majeurs dans notre pays. Malheureusement, c'est une posture qui ne résiste pas à l'analyse. Je demande au ministre conseiller de faire preuve de bonne foi. Malheureusement, cette bonne foi n'existe pas. Mais le peuple souverain primaire saura le moment venu siffler la fin de ces tueries, la fin de ces massacres, la fin du malheur, la fin du pillage. Revenant à votre question, mais les résultats aujourd'hui de cet accord sont l'impunité conférée aux groupes armés constitués de mercenaires étrangers. Je cite entre autres Ali Daras, Sidiki, Al-Khatim et autres. Sont-ils centrafricains? Que le ministre conseiller me le dise. Ça c'est de un. Le deuxième point, c'est le non-respect de l'article 35 parce que malgré les violations massives de l'accord de paix, aucune sanction n'a été prise. On procède par des oukases. On procède par des effets d'annonce. Pendant ce temps, le peuple compte ses morts. Pendant ce temps, le régime du président Touadéra laisse mourir. Tourne le dos au peuple. Comment leur dire qu'il se battrait pour son peuple? De quel peuple parle-t-il? Il se bat pour qui? L'un des points, c'est l'implosion et la partition du territoire centrafricain en une multitude de micro-états, sinon d'émirats. C'est le cas de Bambouti, de Obo. Comment Ali Daras a pu faire pour quitter la zone de Bokolobo jusqu'à Bambouti sans que le gouvernement n'ait levé le petit doigt? Monsieur Nwaduka nous dit que le président de la République tient absolument à doter les militaires formés. Mais c'est un déni. Non seulement vous envoyez nos militaires formés être sous l'autorité de la MINUSCA, ne sortent pas, n'ont jamais exercé leur pratique. Est-ce que vous voulez en faire une armée de parade? Ce que le peuple demande, c'est que son armée puisse le protéger. Ce n'est pas le cas. La conséquence, c'est quoi? C'est l'humiliation de nos militaires. Et vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Le moment venu, vous rendriez des comptes. Je continue. Aujourd'hui, devant toute cette faillite, que dire de l'accord? Sinon, constater sa vacuité.
C'est une lecture que vous faites là, monsieur.
C'est une vacuité aujourd'hui.
Lisez bien votre texte.
C'est une vacuité et le peuple souverain mettra un terme à cette vacuité. Parce que vous ne pouvez pas continuer à accumuler des morts, à accumuler des cortèges de malheur. Et cela doit s'arrêter. Je vous demande d'arrêter cette posture parce qu'elle est insultante pour le peuple centrafricain.
Ok, monsieur Christian Nguenebim, l'accord continue de faire son chemin. Quelques mois après, le DDR n'est pas encore au rendez-vous. Qu'est-ce que cela aujourd'hui vous inspire de l'avenir de la République centrafricaine? Est-ce que cela peut aujourd'hui rassurer les centrafricains dès lors que la communauté internationale trouve comme cadre l'accord, mais sur le terrain, la situation ne s'améliore guère?
Avant de répondre à ça, je vais vous dire, le débat, il a du mal à s'engager parce qu'on est en face de de nous quelqu'un qui est dans une posture défensive. Dès le départ, vous vous êtes adressé à lui, il a refusé de répondre à votre question et il a dit « adressez-vous d'abord aux autres ». Il s'est placé dans une posture défensive. Aujourd'hui, nous voulons faire un débat constructif, c'est-à-dire nous leur demandons qu'est-ce qu'ils vont faire. Au lieu de répondre, il refuse de répondre aux questions, il lance des accusations, il crée de la diversion pour que le sujet que nous sommes venus débattre ne soit pas débattu. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on lui a demandé, en tant que tenant du pouvoir, qui a les leviers en main, c'est pas de venir nous faire la récitation du Conseil de sécurité, ni des thèmes qu'ils débattent là-bas. C'est qu'est-ce que vous allez faire ? Nous sommes face à une situation qui n'évolue pas comme cela avait été prévu. C'est normal, il y a des aléas. Nous ne sommes pas là à dire que le monde est parfait et que dans un claquement de doigts, tous les problèmes doivent être réglés. Mais il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Et au lieu de répondre, on vient nous faire de la diversion. De deux choses l'une, soit on n'a pas de réponse, soit les réponses qu'on a ne sont pas en mesure d'apporter une solution. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Guenebem et le KNK n'ignorent rien de l'accord du 6 février. À ce que je sache, il est public, à moins que vous en ayez caché une partie. Guenebem et le KNK n'ignorent rien des résolutions du Forum National de Bangui, parce que c'est un document public, à moins qu'on en ait caché une partie. Mais c'est ça, parce qu'il faut nous dire la vérité. Le fait de ne pas être allé dans une salle, fait-il que nous sommes ignorants de ce qui s'y est dit ? À moins que vous ayez caché ce que vous avez fait. Parce que c'est ça maintenant qu'il faut qu'on parle. Pourquoi Guenebem et le KNK devraient-ils être ignorants de documents qui ont été rendus publics ? Pourquoi le Centrafricain lambda qui n'a pas pris part au Forum National de Bangui ou à l'accord de Khartoum pourrait-il être plus informé que Guenebem et le KNK ? Ce sont des choses qui sont publiques. Il y a des émissions à la radio, il y a des choses à la télé, il y a des sessions d'information en direction de la société civile, en direction des partis politiques. Le KNK n'est-il pas un parti politique ? J'aimerais aujourd'hui que le ministre conseil spécial nous dise s'ils ont caché quelque chose et que le KNK ne devrait pas en être au courant. C'est la raison pour laquelle il pense que nous méconnaissons l'accord. Non, j'ai dit soyons sérieux, cessons la diversion. On a des problèmes réels. Ali Darassa a mis en place une administration parallèle. Monsieur le conseil spécial, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour dire que vous avez mal agi. Ou... Non, on dit il y a des problèmes. Nous sommes centrafricains. Dépassons le cadre de nos postures politiciennes. Nous vous demandons de débattre avec nous de manière constructive. Aujourd'hui, le problème que nous constatons, c'est que l'accord a du mal à être appliqué dans sa plénitude. Aujourd'hui, ce que nous constatons, et c'est un constat généralisé, je le répète, Mankeur Ndiaye devant le Conseil de sécurité parle depuis plus de 6 mois de 70 violations par semaine. Faisons le décompte. C'est trop. Vous dites que Sidiki est revenu dans la République ? Moi, j'attends de voir, hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain démontre le contraire. Démontre le contraire. Et j'aimerais aussi que ce régime, enfin, après près de 4 ans d'exercice, c'est sa politique de deux poids deux mesures. Parce que, selon la tête du client, l'attitude n'est pas la même. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse pour ne pas qu'on m'accuse d'être partisan, mais je vais dire ce que Sidiki a fait, ce que Ali Darassa fait en ce moment, ne diffère en rien de ce que Abdoulaye Miskine a fait sur la route du Cameroun et pour lequel il a été lourdement pilonné et dégagé. J'attends aujourd'hui que la MINUSCA, qui dispose d'un mandat sous chapitre 7, avec le gouvernement, aille dégager Ali Darassa dans le Umbo. J'attends qu'on le contraigne à revenir dans les proportions territoriales qui étaient les siennes lorsqu'il signait l'accord du 6 février. C'est de ça que nous voulons débattre, que de venir ici lancer des accusations. Les accusations, tout le monde peut le faire. Mais soyons intelligents, mettons-nous au-dessus de certaines considérations et répondons aux questions. Ne faisons pas de faux fuyants. La question, c'est aujourd'hui, il y a une situation. Monsieur le conseiller spécial, nous souhaiterions savoir quelles sont les mesures préconisées. Et nous en débattrons, plutôt que de venir nous faire sourire sur ce plateau.
Monsieur le Président Joseph Binoumi a écouté le ministre Ngwandika. Vous avez été interpellé, même si vous n'avez pas été à Khartoum. Mais aujourd'hui, 7 mois après, quel est le bilan exhaustif que vous faites de l'accord avec tout ce qui se passe par la montée en puissance des groupes armés ?
Pour que nous ayons quelque chose de constructif, moi je vais vous parler. Le document que Fidel Ngwandika vous a présenté, c'est moi qui lui ai donné. Est-ce qu'il dit faux ? Il ne dit pas.
C'est vrai.
C'est moi qui lui ai présenté. Donc je crois qu'à la fin de la réunion, il me remettra le document. La deuxième chose, c'est que monsieur Fidel Ngwandika connaît bien, puisque étant conseiller personnel du président de la République, nous sommes passés par son cabinet pour être reçus par le président, parce que nous voulions dire à cette époque-là au président qu'il y avait une volonté de ne pas voir appliquer les recommandations du Forum National de Bangui. Et l'idée qui sous-attendait le régime d'antan, c'était, je dis régime d'antan, le gouvernement dirigé par Sarandji, c'était que le Forum National de Bangui s'est réalisé pendant la transition et qu'il ne fallait pas que le président de la République hérite les recommandations du Forum National de Bangui. Et donc, à cet effet, nous avons rencontré le président nous a dit, sa feuille de mission, sa déclaration de politique était faite sur la base des recommandations du Forum national de Bangui. Mais mes chers, je vais vous dire, nous avons dit, quand on est allé à Saint-Égidio, que nous avions seulement appliqué les recommandations du Forum national de Bangui. Quand ils sont allés après Saint-Égidio à Khartoum, nous avons dit qu'il ne fallait pas, que c'était le tralala, parce que tout ce qu'on allait chercher à Khartoum, nous les avions. Mais malgré ça, la volonté de tuer les recommandations du Forum national de Bangui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire, je préside le comité de suivi. Et je dis ça à M. Ngouadjika qui est présent. Je préside le comité de suivi du Forum national de Bangui. De janvier à 2 novembre, on a refusé de payer un seul franc pour que les recommandations pertinentes du Forum national de Bangui soient ventilées. Il est là. Demander au ministre Dondras, qui à l'occasion d'un conseil de ministres, le président de la République lui avait dit, avec M. Sarandji, d'aller donner les moyens au comité de suivi pour que le comité de suivi puisse ventiler sur le territoire national les recommandations du Forum national de Bangui qui devait nous amener la paix. Et si on avait appliqué les recommandations du Forum national de Bangui, d'abord, un, nous ne serions pas partis à Khartoum, et deux, notre pays ne serait pas occupé comme aujourd'hui. Alors donc, je voudrais que le co-débatteur ici, M. Ngouadjika, ne dise pas des choses qui nous permettent d'aller en profondeur des choses qui peuvent salir la République. Parce que les recommandations du Forum national de Bangui, c'est l'œuvre du peuple sortie d'une consultation populaire à la base avec des recommandations et qui ont permis de sortir les recommandations du Forum national de Bangui. Maintenant, vous me dites, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'accord après sa signature? Mais vous allez vous réveiller un bébé la nuit, vous dites où est-ce qu'on en est avec l'accord? Le bébé va soulever la tête et il va vous dire non, l'accord n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas pourquoi? Il n'existe pas parce que les dispositions pertinentes de l'accord qui ont dit que dès sa signature, les barrières illégales vont disparaître. N'ont pas disparu, je l'ai signalé. Les dispositions pertinentes de l'accord qui disent que 90 jours après, les groupes armés ne devaient plus exister. Au contraire, les groupes armés non seulement existent, mais ont acheté des armes anti-aériennes. Ils utilisent les missiles sol-sol et sol-air. Ils le savent, les groupes armés, leur nombre le jour de la signature de l'accord, leur capacité de nuisance aujourd'hui a augmenté par rapport après la signature de l'accord. Mais est-ce que le centrafricain aujourd'hui a-t-il une idée que l'accord nous a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, nous disons quoi? Nous disons qu'à chaque fois qu'un centrafricain meurt tué par une autre personne, l'acte constitue une violation des droits de l'homme. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous dise qu'il y a eu moins de morts maintenant qu'auparavant. Nous disons qu'il ne devrait pas avoir de morts après la signature de cet accord. Et nous pensions que les acteurs qui étaient chargés de défendre cet accord, c'était eux qui devaient venir vers le peuple. Ce ne sont pas les petites réunions que j'ai vues Fidel Ngouadjika nous soulever. C'est partir à la radio du peuple pour dire à la date d'aujourd'hui, voilà ce qui se passe sur notre pays. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, nous sommes agacés en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes agacés que à chaque fois qu'on indique au pouvoir de l'État que Sidiki a tué Akundjili et Lemuna, on dit que non, il est en train de revenir dans la nation. Maintenant, il vient dans quelle nation? Il n'est pas centrafricain, qu'est-ce qu'il vient dans notre pays? Quand on dit que Ali Daras est allé nommer des gens, on dit mais le peuple n'a pas donné à Ali Daras le pouvoir de nommer un préfet ou un sous-préfet qui se fait par décret de la République. Quand on dit ça, on dit non, Ali Daras est seulement allé se promener à Obo. Nous disons, c'est pas ça, nous n'acceptons pas ça.
Ok, monsieur Fidel Ngouadjika a écouté vos co-débatteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inaction et le silence du gouvernement ne cache pas un contrat social qui lie le gouvernement et les groupes armés en coulisses?
Comment est-ce que vous pouvez dire le vocable inaction? Si le gouvernement ne travaille pas, vous ne pouvez pas rester devant ce micro-là parler, mon frère. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Je dis, l'accord du 6 février fait son chemin, tranquillement, sûrement. Et nous aboutirons à la paix dans ce pays.
Mais cela avec des cortèges de morts aussi.
La paix ne se décrète pas. Quand vous me dites, celui-là est étranger, Ali Daras est étranger, Sidiki est étranger, Abdoulaye, je ne sais pas qui est étranger. Ça, c'est vous qui le dites. Je vous avais dit que la CELECA a été au pouvoir. Un président de la République peut donner la nationalité par décret. Vous comprenez?
Informez-nous alors.
Donc, pendant le règne de CELECA, Ali Daras a bien reçu un décret pour être le chef de militaires de région de la Waka, vrai ou faux? Il y a eu un décret.
Non, un décret. Un décret nommant quelqu'un
à imposer.
N'est pas un décret attribuant la nationalité à quelqu'un.
Écoutez, qui a la parole?
Vous avez la parole, merci. Je dis, est-ce que.
Non. Écoutez, je vous réponds. Un décret a été signé pour que Ali Daras soit le chef de région militaire de la Waka.
Est-ce que cela
un autre décret? La nationalité s'acquiert par décret ou par droit de sol ou par la naissance ou par alliance. C'est un décret que le président de la République peut prendre pour donner la nationalité à quelqu'un. Vous avez été au gouvernement. Vous aussi, au gouvernement, il y a des textes que le ministre de l'Intérieur ramène ça au Conseil des ministres pour dire, voilà, il y a tant de demandeurs de nationalité et des nationalités peuvent être données par décret. On ne sait pas ce que de tout a fait pendant les 9 mois de son règne pour donner la nationalité à ces gens-là. Ça, c'est autre chose.
Vous n'avez pas la parole.
Ah bon. Vous n'avez pas la parole. Vous avez été au gouvernement comme moi. Vous comprenez? Vous n'avez pas d'informations. Vous cherchez des informations aujourd'hui.
Ah bon?
Vous aviez eu un ministre Urca au gouvernement. Vous. Fallait laisser ce ministre pour qu'il vous ramène des informations ou si vous avez des projets de loi, vous pouvez passer par ce ministre.
Répondez aux questions.
Je réponds à vos questions. Je dis que l'accord du 6 février fait son bon chemin. Le DDR se met en marche. Les USMS se mettent en place. Les désarmements se font. Les recrutements se font. Les militaires, nos forces de défense et de sécurité sont déployées progressivement dans le pays. Donc, attendez, je continue.
Monsieur le ministre, nous avons suivi votre développement, mais nous avons besoin de vous poser une question.
Attendez, vous posez une question, je n'ai pas encore répondu, vous voulez une autre question. Vous me parlez de l'impunité. Vous me parlez de traduire Ali Daras, Sidiki Abdoulaye Miskine, que Bozizé a fait héberger au palais de la République. Vous avez vu, hein? Héberger au palais de la République. Vous avez
tout le monde, vous avez eu votre bac. Il répond pas. Hein.
Vous avez eu votre bac. Ceux qui ont eu leur bac régulièrement ont dû apprendre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le tribunal de Nuremberg, ça ne s'est pas fait dans la guerre, ça s'est fait dans la paix. C'est lorsqu'il y aura la paix que ces bourreaux, s'ils sont réellement de bourreaux, seront jugés. Il y a encore des gens de la Deuxième Guerre mondiale, attendez, j'ai pas fini, de la Deuxième Guerre mondiale qui sont traqués. Ces étrangers qui sont aujourd'hui ici, que vous dénoncez, qui les a ramenés dans le pays?
Monsieur le ministre,
si ce n'est pas le KNK.
Monsieur le ministre,
vous parlez de l'humiliation, s'il vous plaît.
On comprend finalement qu'il n'a aucune réponse à apporter.
Je réponds à l'humiliation de notre armée. Qui a humilié notre armée? On n'avait pas des armes. Le palais était jonché d'armes, du sol jusqu'au premier étage. Nos poudrières étaient pleines. À Bossambélé, tout était plein. Qui est parti avec la clé de ces poudrières pour que notre armée soit humiliée par des gens qui viennent avec des machettes pour prendre le pays? Le chef suprême des armées a pris le large, a laissé ces armes-là à ces étrangers que lui-même l'a ramené en 2002-2003. Ces gens de Ali Daras, c'est qui?
Tout ça, c'est bien beau.
Mais vous allez faire quoi?
Aujourd'hui, le président de la République...
Depuis le 30 mars, Ali Daras a nommé des gens.
La paix
qui tue les gens.
Vous allez faire quoi? Mais vous ne répondez pas aux questions. Monsieur Fidel Gwandika, nous avons besoin de vous poser une seule question.
Posez la question, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui justifie la disproportionnalité de la réponse face à Ali Darassa et face au FDPC de Abdoulaye Miskine?
Répondez.
Abdoulaye Miskine est aujourd'hui. Il est en fuite.
Pourquoi le gouvernement n'utilise pas la même énergie pour mettre en fuite UPC?
Ali Abdoulaye Miskine, qui avait été logé au palais, est en fuite aujourd'hui. Bachir et les autres sont dans les mains de la police au Soudan. Il y a une équipe gouvernementale et un magistrat qui ont été dépêchés pour les ramener. Donc ceux-là, ils sont sortis de la République totalement. Ce sont des criminels de guerre.
Les bachas ne sont pas chassés, ils vont pas à la prison. Pourquoi vous ne frappez pas l'autre? C'est ça la question. Nous ne sommes pas. C'est la question qu'il vous a posée. Répondez-y. Répondez-y, ne faites pas de diversion.
Je ne fais pas de diversion.
On vous dit que Abdoulaye Miskine a été militairement traité et durement. Bravo. On vous demande pourquoi ne pas traiter les autres de la même manière. Mais vous ne répondez pas.
Je ne peux pas vous le dire.
Répondez. Ce sont des secrets. Mais c'est la question qu'il vous a posée, c'est celle-ci. Et il ne vous parle pas de Bachar.
Ce ne sont pas des secrets. Il n'a pas été chassé par la NASCAR.
Répondez, ne faites pas de diversion.
Merci, je vous en prie. Respectez la police de débat. nous comprenons que M. le ministre a dit que c'est une question de secret défense. M. André Nalké Dogo, comment vous comprenez-vous aujourd'hui la manque de volonté politique du gouvernement d'aller pour frapper les groupes armés qui sortent du cadre de l'accord?
Je vais vous répondre très rapidement. La complicité est évidente, elle est même insolente. Il y a bien collusion d'intérêts. Et je le dis en regardant droit dans les yeux le ministre conseiller.
Spécial.
Qu'il soit spécial ou spécieux, c'est pas là le problème.
Votre disque est rayé, monsieur.
N'est-ce pas ?
Votre disque est rayé.
Il faut que vous compreniez que la complicité est évidente. Je dirais, elle est insolente.
Attendez 2021 et vous verrez. Le peuple va se promener
De toute manière, le champ du cygne est là. Le champ du cygne est là. Oui,
pour votre défaite, vous le savez très bien.
Préparez-vous.
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille aux élections,
population. Monsieur le ministre, je vous en prie. Je comprends pourquoi vous voulez que le débat ne se fasse pas. Vous n'avez aucune réponse.
J'ai des réponses.
Vous n'avez pas de réponse.
Pour le respect, pour le respect.
Vous n'allez pas jouer au tout lieu.
Je vous demande de respecter la position du débat et de respecter le peuple qui vous suit en ce moment.
Merci.
Et de répondre aux questions. Je réponds.
Oui, vous avez la parole. Vous avez une minute.
Et sans me perturber après.
Je vous.
On se met d'accord. On ne se perturbe plus.
Personne ne vous perturbe.
Je vous dis,
vous laissez les autres débats.
La complicité du gouvernement est évidente, sinon insolente, en ce que l'entente est quasi parfaite. Vous voyez, Abdoulaye Miskine a commis des impairs, il y a eu des frappes. Daras a commis plus que des impairs, il n'y a aucune frappe. Aujourd'hui, Ali Daras a quitté son fief de Bokolobo, a traversé l'Awaka, la Basse-Koto, le Mbomo pour se retrouver au Mbomo. Et cela dans le silence assourdissant du gouvernement. Alors, venir nous dire que Ali Daras n'a pas nommé deux préfets, deux sous-préfets, deux maires et d'autres, c'est un déni inacceptable. Il ne faudra pas qu'on prenne le peuple centrafricain pour des dégénérés. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas et il faudra que le ministre conseiller ici ait un peu de respect pour le peuple. C'est à cause de ce peuple qu'il est là. Okay. Le peuple souverain primaire dira son mot le moment venu et vous serez devant l'histoire. Vous y serez.
Ok, monsieur Christian Nguenebim, comment aujourd'hui vous analysez la posture du gouvernement face à l'évolution des groupes armés qui continuent de piller et qui continuent de cracher sur la souveraineté nationale?
C'est difficile de répondre à cette question. Il faut l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est l'héritage. Le second angle, c'est l'action. L'héritage, c'est un gouvernement qui est arrivé dans un pays avec une armée démembrée, avec un territoire occupé et donc en position de faiblesse. Ça, c'est l'héritage. Mais quelles sont les actions qui ont été entreprises et quelles sont les actions qui vont être menées maintenant? Je répète ce que moi je disais au début. Je voulais qu'on fasse un débat, qu'on dépassionne et qu'on aille au-delà de nos postures politiciennes pour donner des réponses. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Moi, je fais de la politique pour faire des propositions, des suggestions constructives. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, il y a deux aspects. Il y a l'héritage. Lourd. Mais il y a un autre aspect, c'est l'action menée. L'action menée peut avoir des ratés, comme toute œuvre humaine. Et lorsqu'il y a des ratés, quels sont les correctifs? Je reprends, c'est ça la question que nous sommes venus débattre, à laquelle nous n'avons pas de réponse. Nous demandons des réponses. C'est pas à nous d'apporter les réponses.
Il n'y en a pas, malheureusement.
Nous ne sommes pas aux affaires. Ceux qui gouvernent doivent nous dire quelles réponses ils apportent. Et j'ai dit, on a soulevé des aspects, notamment la politique du deux poids deux mesures. Nous le reprochons au gouvernement. Et c'est notre rôle d'opposant de mettre le doigt sur ce que nous estimons être des imperfections dans la gouvernance. Nous disons que lorsque Abdoulaye Miskine est frappé, nous disons bravo. Et nous disons que la même politique doit être appliquée envers les autres qui se rendent coupables d'actes de violation de l'accord du 6 février. Vous parlez de faire un bilan de cet accord. Au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la liste des avancées que nous serons en mesure de produire ou de débattre ici, le centrafricain lambda vous dira qu'il ne ressent pas les effets. Parce que les barrières continuent d'être en place, les massacres continuent d'être opérés et les groupes armés continuent de se mouvoir, de recruter, d'acheter des armes. J'en veux pour preuve le dernier rapport des experts du comité de sanctions des Nations Unies. Même les points par lesquels les armes entrent en Centrafrique sont identifiés. C'est dans le rapport. Mais nous disons, ça, ce sont des violations flagrantes. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Et c'est pas le KNK, parti d'opposition, qui doit prendre une décision. C'est le gouvernement, c'est le président de la République. Et nous les interpellons en leur disant, voici les problèmes. Quelles sont les solutions que vous proposez? Mais je constate que depuis près d'une heure que nous débattons, on n'a pas de réponse. C'est ça qui devient inquiétant. C'est que ceux qui doivent nous dire
pour encore un an et demi, au moins, j'espère pour eux, mais bon, je n'y crois pas, mais au moins encore pour un an et demi qu'ils gouvernent nos destinées de ce pays, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rapporter la sécurité, pour que le désarmement soit effectif? Parce que en même temps que on est allé récemment à Bois pour le lancement des unités spéciales mixtes, n'est-ce pas que nous avons aussi constaté qu'il y avait défection des éléments de Sidiki, hein? Il y en a qui ont fui les formations, qui sont repartis, qui ne sont pas là. Ça aussi, on ne veut pas le dire, mais c'est des faits. Et donc, je dis aujourd'hui que cet accord, à mes yeux, d'abord, nous n'avons pas participé ni à sa négociation, ni à son élaboration. Nous ne sommes pas partie prenante dans sa mise en œuvre. Donc nous avons tout le loisir de le critiquer. Aujourd'hui, nous disons qu'il ne fonctionne pas. Nous ne devons pas nous arrêter sur des positions de principe qui sont « Oui, bon, telle cérémonie a eu lieu, les choses évoluent. » Non, dans les faits, est-ce que le Centrafricain ressent les effets bénéfiques 7 mois après ? Non. Non, c'est la réponse. Et à partir de là, nous demandons aux tenants du pouvoir, puisque nous constatons ensemble qu'il y a des dysfonctionnements, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que eux, ils ont pris pour habitude de ne pas nous associer à la réflexion. Ils prennent les décisions seuls, ils exécutent seuls. Alors, qu'ils acceptent que nous critiquions.
Ok, il faut accepter les critiques. Monsieur Binoumi, vous avez suivi le développement. L'accord continue de faire toujours son chemin, sauf que l'accord se vide au fur et à mesure de son contenu. Comment est-ce qu'on va organiser les élections dans les mois à venir?
Je voudrais ici préciser que j'ai l'habitude de débattre à votre radio ainsi que dans les autres radios, mais quand je mène les débats au nom de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, je suis écouté par 7000 membres de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, je suis écouté par 5 millions de personnes, et je souhaite que je ne participe plus à des débats où nous nous engueulons et puis que nous ne soyons pas capables de développer les points de vue et d'instruire notre peuple. Et donc je souhaite que vous prendrez les précautions pour ça. Maintenant, vous me parler des élections. Vous savez que il y a un proverbe qui dit que le chien a montré sa sagesse en utilisant non pas sa patte de devant pour se gratter la tête, mais il prend sa patte arrière pour gratter sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous expliquons aux gens qu'on va aller aux élections et qu'on crie qu'on va aller aux élections, mais les élections, ce sont des actes mathématiques. Monsieur le conseiller spécial du président de la République, là, c'est des actes mathématiques. Et j'ai demandé une fois qu'on prenne le crayon et qu'on écrive. Nous sommes aujourd'hui au 2 novembre. Nous n'avons pas commencé le recensement électoral. Pour le faire, il faut au moins 3 mois. Même si nous l'avons commencé aujourd'hui, il faut au moins 3 mois pour le recensement. On sera au mois de janvier. Il faut au moins 1 mois pour compiler les résultats. Il faut afficher et corriger les résultats. Après, il faut 3 mois. Pour sortir les cartes d'électeurs. Après avoir sorti les cartes d'électeurs, il faut décrire les circonscriptions électorales. Vous prenez 2 mois ou 3 mois à chaque fois. Vous allez vous rendre compte que quand vous serez au mois de décembre, vous n'aurez même pas eu de temps pour battre la campagne électorale. Donc les élections pour décembre 2020 sont problématiques, calculées à chaque fois, 3 mois ou 2 mois, selon qu'on publie, on corrige les lettres, selon qu'on sort les cartes d'électeurs, on a dit biométriques, selon qu'on sort les bulletins de notes, selon qu'on donne une date pour la campagne électorale, selon qu'on proclame les résultats, etc., vous verrez que nous ne serons pas au mois de décembre capables d'organiser de bonnes élections. Ça, c'est de un. De deux, tout le monde sait que quand Ali Daras continue avec ses barrières, déplace ses hommes jusqu'au Ombomou, et qu'on nous dit qu'on a tellement des accords avec Ali Daras, que lui, il permettra que les recenseurs de l'Autorité nationale des élections vont circuler sur l'ensemble du territoire national. Si on nous garantit que le jour du vote, Ali Daras aura ses sous-préfets et ses préfets et ses maires de communes, qu'on va compiler les résultats sous leurs mains, et que nous aurons à la fin des élections libres, écrites libres, nous croyons que même si c'est dit par les Nations Unies, moi, défenseur des droits de l'homme, je dis ce sera un mensonge grossier.
Ok, ce sera un mensonge grossier. Monsieur Fidel Mwandika, dans ces conditions actuelles où il n'y a pas de volonté réelle pour faire avancer les causes de la paix, est-ce que les Centrafricains iront aux urnes librement pour faire un vote serein?
Je constate et regrette le défenseur des droits de l'homme est si pessimiste. Quelqu'un qui connaît ce pays depuis Boganda jusqu'à aujourd'hui, qui a peut-être supervisé ou participé à toutes les élections depuis 1964 jusqu'au 30 mars 2016, disent qu'il a des craintes, c'est son opinion, mais je le regrette, je le regrette. Nous irons aux élections, que ce soit avec un glissement de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais nous irons aux élections. Quant à ce qui concerne les résultats, je voudrais féliciter enfin M. Guenebem, qui est revenu dans la République en disant que voilà, le président de la République, Faustin Touadéra, a hérité d'une situation catastrophique et qu'il demande qu'est-ce qu'il a fait depuis le 30 mars 2016 jusqu'au 2 novembre 2019 où nous sommes en train de débattre. Le 30 mars 2016, vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport international de Bangui. Il y avait plus de 10 000 âmes qui dormaient dans la boue, qui tombaient malades, qui étaient violées par des militaires, qui étaient violées par des anti-balaka, qui étaient violées par des séléka du côté du kilomètre 5. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Il y avait des ledgers partout, dans votre propre maison, dans ma propre maison, dans ma propre concession, dans vos propres concessions. Il y avait des gens qui étaient venus pour dormir à même le sol. On ne voit plus ça. Aujourd'hui, il y a des Centrafricains qui reviennent du Tchad. Nos frères Centrafricains d'obédience musulmane qui ont été chassés ou qui avaient été déportés par quelques forces conventionnelles tchadiennes avec des grands camions. Ils ont souffert, ils ont dormi dans des écoles délabrées, ainsi de suite. Ils reviennent. Ils témoignent. Il y a des déplacés, des réfugiés qui viennent.
Cela garantit pour vous des élections apaisées.
Attendez, à Berberati, je réponds pour les résultats. D'accord ? Aujourd'hui, vous allez au kilomètre 5 sans problème. Les commerces reprennent. Vous allez au centre-ville, vous voyez les gens construisent. Nalka fait des concessions. Avant, on ne faisait pas ça. Avant, on ne pouvait pas construire.
Parlez pour vous. Parlez pour vous.
Tout le monde construit.
N'est-ce pas ?
Des buildings
poussent. Vous n'avez pas besoin de béquilles.
Des buildings poussent comme des champignons au centre-ville et dans les périphéries. Le commerce fonctionne. Des Centrafricains maintenant se lancent dans le commerce, même si c'est encore du commerce informel. Bas son plein. Les investisseurs commencent à revenir dans le pays. Ça, ce sont des signes de paix. Il y a un recrutement massif au niveau des forces de défense et de sécurité. Les gens sont déployés. Il y a 5000 intégrés dans la fonction publique, du jamais vu depuis Boganda jusqu'à aujourd'hui. En moins de 3 ans, 5000 intégrés l'année prochaine par rapport à la loi de finances qui va être votée. Il y aura encore 1500 à recruter dans l'armée et plus de 3000. Il n'y a pas eu d'année blanche depuis le 30 mars jusqu'à aujourd'hui. Les gens travaillent au niveau de l'ANE. Madame Ornaer Koué se bat. On cherche de l'argent public et des aides pour les prochaines élections générales. L'immeuble de l'ANE vient d'être inauguré. Tout le monde a vu ça. Avant, il travaillait dans la boue derrière le ministère des Travaux publics. Aujourd'hui, cette institution républicaine est honorée. Les élections auront bien lieu à la date précise, peut-être avec un glissement. Parce que vous, vous dites, monsieur Guénébem, que bon, il vous reste encore un an et demi, mais je ne crois pas. Parce que vous avez un agenda caché pour une autre transition. Vous avez...
Ah, vous me prêtez des propos.
Vous avez un autre... Vous avez peur d'aller aux élections?
Ok, non, merci, monsieur bon, Guénébem, mais vous avez la parole.
Non. Quand j'ai dit je ne crois pas, J'ai dit vous avez encore un an et demi, voire plus. Mais je ne crois pas. Voire plus dans le sens où si vous étiez réélu.
Vous êtes français, vous parlez mieux français que moi.
Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Vous me prêtez des propos. C'est moi, ça. J'ai dit.
Moi, je comprends
il
ce que vous avez dit.
Il vous reste un an et demi, voire plus.
On a écouté ce que vous dites à la radio.
Ah oui. Mais moi, j'ai dit quoi?
Mais pas seulement vous, l'opposition.
Non, le KNK. Le KNK n'a pas dit ça.
Vous voulez la
transition. Je suis le porte-parole du KNK.
Vous voulez la conférence nationale souveraine.
Le KNK n'a pas dit ça.
Monsieur Fidengwandika,
le KNK vous dit, nous reste un an et demi.
Merci, monsieur Guénébé.
Voire plus.
Merci, monsieur Guénébé.
Nous ne croyons pas au plus.
Monsieur Guénébé, merci.
Voilà, c'est clair.
Nous tendons vers la fin de
nous allons gagner ces élections-là pour votre bonheur.
Ok,
mais si vous le dites,
si vous ralliez-vous. Ralliez-vous.
Ah non.
Ralliez-vous à la machine.
Monsieur, monsieur Wandika, respectez la pause du débat. Monsieur André Nalkedogo, est-ce que les conditions dans lesquelles on organise aujourd'hui les élections rassurent aujourd'hui le peuple pour aller à une élection pacifique?
Je vous remercie. Je dis, on devrait se rappeler des conditions calamiteuses au cours desquelles les dernières élections ont eu lieu. C'était des élections les plus longues de toute l'histoire de notre pays. Les manquements, vous les savez. Aujourd'hui, les conditions sont encore plus difficiles qu'hier. À l'époque, en 2015-2016, il n'y avait guère que 5 groupes armés, que le tiers de notre territoire qui était sous coupe réglée. Aujourd'hui, nous sommes à 90% du territoire occupé par des groupes armés. Et vous voulez des élections. Mais sachez que les élections sont un moment privilégié pour le souverain primaire parce que c'est à ce moment-là qu'il détermine le choix de ses gouvernants. Et cela se fera dans les conditions les plus optimales qui soient. Nous y veillerons. Parce que, comptez sur nous, il n'y aura pas ce qui s'est passé en 2015-2016.
En 2011 plutôt.
Okay. 2015-2016.
En 2011 plutôt.
Donc, je voudrais que vous le sachiez que tout ce que vous mettez en œuvre, à commencer par le retrait subreptice de la loi organique sur l'ANE, je suis député, vous ne l'êtes pas. Donc, tout cela, c'est pour seul but de créer les conditions de hold-up. Il n'y en a pas parce que le peuple n'en veut plus.
C'est la peur, ça.
Vous serez battu et battu sèchement.
Par
je vous le dis, par nous.
Ok, vous en avez, je vous en prie.
Je regrette que je n'ai pas eu la réponse par rapport à ce débat en français. Je n'ai pas eu la réponse que j'attendais. Je vous remercie.
Ok, c'est sur ce mot que s'achève notre émission consacrée à la problématique de l'administration de l'UPC dans le Haut-Mbomou et son corollaire, la partition. Nous avons invité autour du plateau M. Joseph Binoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. M. Joseph Binoumi, merci.
Merci. Merci à Radio Ndekelou.
Nous avons aussi invité M. Fidèle Ngwandika, ministre conseil spécial du président de la République. M. Fidèle Ngwandika, merci.
Nous sommes au service du peuple souverain.
Ok. Nous avons reçu M. André Nalke Dorogo, député et premier vice-président de l'URCIA. M. André Nalke Dorogo, merci.
J'aurais souhaité que ce débat soit l'occasion pour M. Ngwandika, ministre conseiller spécial, de dire la vérité et toute la vérité au peuple centrafricain. Malheureusement, ça a été une déclaration.
Ok, nous avons aussi reçu M. Christian Guenebem, secrétaire général adjoint, porte-parole du KNK. M. Christian Guenebem, merci.
Merci à vous, merci à nos auditeurs et comme l'a dit un de mes prédécesseurs, je regrette de ne pas avoir eu de réponse.
Ok, l'émission Patara, occasion est donnée pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence et à bientôt.